On va retrouver Danny Dubé. Salut, Danny.
Salut, Derek.
Hey, Danny, j'ai vu un tweet passer dans les derniers jours que je voulais te parler. Ben,
oui.
C'était un tweet qui disait, regarde, c'est bien beau, là, les Golden Knights de Las Vegas, mais je pense que leur petite histoire de Cendrillon va se terminer ici. Ils affrontent un adversaire qui est plus gros, qui est plus coriace, qui est plus fort. Et bonne saison, les Golden Knights, mais ça sera pour une autre fois. Mm-hmm. Mais ce tweet-là datait d'avant la série face aux Kings de Los Angeles. L'histoire Cendrillon se poursuit, Danny.
Oui, mais écoute, c'est quand même une équipe assez spéciale, celle des... celle des Golden Knights. Puis il y a quand même beaucoup d'éléments qu'il faut mettre en valeur. Le premier, là, c'est que je comprends qu'on parle d'une équipe de l'expansion, mais quand tu as Marc-André Fleury devant le filet, c'est pas un gardien de but d'équipe d'expansion. C'est un gardien de but élite de la Ligue nationale qui a déjà fait ses preuves, qui a gagné 2 Coupes Stanley. Alors, écoute, je veux rien enlever au fait que c'est une équipe de l'expansion, mais lui, c'est pas un joueur d'expansion. Il y a un tas d'autres joueurs comme Marchessault, je peux comprendre qu'à un moment donné, même si c'est une erreur de parcours, puis on va en parler tout de suite après. Écoute, ils ont été un petit peu obligés de laisser partir les Pingouins, de laisser partir Marc-André. Puis aujourd'hui, avec le recul, je me demande si ils se remettent pas en question, comme la plupart des directeurs généraux qui ont laissé partir des joueurs.
Le talent, c'est une chose, mais ce sentiment-là de négliger... Tu sais, partout où je regarde, là, on les appelle les rejetés, les rejets, les négligés, tout ça. Mais à un moment donné, là, ça, là, à part du talent, ça l'aide, ça stimule, ça motive. Toi, tu es un entraîneur, tu écris des livres là-dessus sur le côté mental de l'athlète, là. Danny, c'est le meilleur cadeau qu'on peut faire aux Golden Knights de Las Vegas.
Ben, tu sais, les équipes ont besoin d'un sens commun pour se retrouver. Et ce qui nous ressemble, ça nous rassemble. Mais là, c'est que quand tu regardes autour de toi, c'est vrai que tout le monde se sent un peu rejeté. Il y en a pour qui c'est encore plus, ça a fait encore plus mal. Je pense à Marc-André, c'en est un, certainement. Marchessault, c'en est un autre. Il y a certains joueurs là, où on a senti une douleur vive lorsqu'on les a laissés partir au repêchage de l'expansion. Pour d'autres, c'est simplement, c'était une délivrance, une chance d'avoir une page blanche puis d'écrire un nouveau chapitre de leur carrière. Donc, d'un joueur à l'autre, c'est pas pareil. Mais moi, je pense que il faut absolument rendre crédit à Gérard Gallant sur un aspect qu'on n'a pas beaucoup parlé. On a parlé beaucoup des joueurs, mais on n'a pas parlé des performances individuelles des 9 premiers attaquants de cette équipe-là. Écoute, je m'amusais à la fin de la saison à regarder les chiffres. On n'avait pas tout à fait encore fini la saison. Et sur les 9 attaquants, à ce moment-là, il y en avait 8 qui avaient déjà dépassé leur statistique de l'année précédente. Et il y en a un qui était sur le tout près, et c'est James Neal, qui était tout près d'y arriver, et il l'a fait d'ailleurs. Alors, les 9 premiers attaquants de cette équipe-là, ils ont tous été meilleurs cette année qu'ils l'avaient été dans leur ancienne équipe l'année précédente. Donc, c'est pas rien, là. Dans une équipe d'expansion, là où supposément il y aura moins de talent, ils ont fait mieux que l'année précédente dans des équipes bien établies. Alors, l'entraîneur a beaucoup à voir là-dedans.
Parle-moi justement, Gérard Gallant, comment il a réussi justement à soutirer le meilleur de chacun de ces joueurs-là? Parce que normalement, tu vas voir, il y a des joueurs justement qui vont avoir des meilleures saisons, il y en a qui vont régresser, mais lui, d'avoir réussi à amener tout le collectif à un autre niveau, un niveau supérieur, je sais que tu l'avais déjà nommé comme entraîneur de l'année avant même les séries, mais explique comment il a réussi, lui, à justement rassembler et soutirer le meilleur de tous ces joueurs-là.
Ben, je pense qu'il va. Ce qui est en train de se produire avec le phénomène de Vegas, Gérard Gallant va avoir beaucoup à partager après son expérience. Et je m'explique. C'est que lui, dans son approche, il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui agissent comme ça. Et je pense que c'est le nouveau virage que lui a fait. Il y en a quelques-uns. Je pense que Cooper est un peu comme ça aussi. Et lui, sa philosophie, c'est écoute, les erreurs vont arriver. C'est un jeu tellement rapide. Il y a des choses qu'on ne veut pas qu'ils se produisent. On ne veut pas qu'il y ait d'erreurs de nonchalance. On ne veut pas qu'il y ait d'erreurs provoquées par de l'égoïsme.
Oui.
On ne veut pas qu'il y ait d'erreurs provoquées par une mauvaise gestion des décisions quand on vous a mis au courant de tout ça. Quand c'est des erreurs d'exécution, quand c'est une erreur parce que, bon, écoute, c'est de la bonne volonté, là, mais ça n'a pas marché. Je l'ai essayé, ça n'a pas marché. Lui, là, il se dépêche de dire aux joueurs, écoute, tu vas retourner sur la glace.
Oui.
Quand le joueur est ébranlé, prépare-toi, tu y retournes.
Oui.
Parce que, et on le sait, là, tous ceux qui ont fait moindrement de sport de compétition, la dernière chose que tu veux, c'est être cloué sur le banc, être laissé à l'écart de l'action et commencer à ruminer. Ouais, commencer à remettre en question tout ce que tu es en train de faire. Puis là, tu perds ta confiance quand c'est même pas nécessaire, parce qu'on sait une chose. Lorsque c'est un petit peu là comme avec nos enfants. T'sais, on le sait qu'ils vont faire des bêtises. Ce qu'on veut, là, c'est qu'ils soient animés par les bonnes choses au moment où ils font des actions. Après, si ça se transforme en bêtise, c'est pas grave si c'est les bonnes intentions qui sont derrière ça. Et moi, je pense que Gérard, c'est ce qu'il a réussi à faire. Il a réussi à mettre dans la tête des joueurs les bonnes intentions. Alors, c'est une équipe qui, collectivement, joue très, très bien, joue ensemble. Et là, je vais inviter les gens, durant la finale, à regarder le comportement des joueurs de l'équipe de Vegas.
Oui,
de l'équipe de Vegas lorsqu'ils ont l'avance. Et c'est... souvent, là, défensivement, c'est très rare que les joueurs jouent un pour l'autre. Défensivement, ça arrive souvent que les joueurs s'occupent. Je m'occupe de mon joueur, je fais ma job. Donc, s'il arrive quelque chose, ce ne sera pas de ma faute, j'ai fait ma job. Les joueurs des Golden Knights ne jouent pas comme ça. Ils jouent, là, ils viennent prêter main forte, ils créent des surnombres défensifs, ils regardent autour, ils prennent le bon joueur, ils sont constamment en train de lire le jeu. Ça veut dire qu'il y a eu un travail de fond pour vraiment mettre en place la structure, puis dans l'opération, dans l'exécution, dans la prise de décision, parce que ils sont très compacts, puis quand il y en a un qui tombe, il y a quelqu'un d'autre qui vient, puis il prend la relève. Et ça, c'est la plus belle chose qu'un entraîneur peut réussir à créer, c'est le sens commun. Ouais. C'est cette espèce de chimie, de gélatine qui prend ensemble, qui fait que tu es presque indestructible, c'est ce qu'on a vu. Alors, indépendamment qui va jouer contre la formation de Vegas, ils vont en avoir plein les bottines. Ouais. Plein les bottines. Et je te dirais ceci, le grand danger qui, d'après moi, va guetter le Lightning, parce que je pense que le Lightning va gagner sa série, là. Le grand danger qui va guetter le Lightning, c'est que les Golden Knights sont capables de faire ce qu'aucune autre équipe a fait avec Tampa Bay depuis le début des séries. C'est-à-dire qu'ils sont capables de jouer, de fermer le jeu complètement et d'être extrêmement patients et de forcer l'équipe à ouvrir, à attendre. Ils vont attendre et ils vont être capables d'attendre tout en étant actif. Il y a bien des équipes, là, et c'est assez incroyable. Les équipes jouent, là, lorsqu'on leur dit de défendre, ils deviennent passifs. Les Golden Knights continuent d'être actifs, mais ils sont en mode défensif. Et ça, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont capables de le faire. Moi, je pense que c'est ce qui fait que Fleury est capable d'avoir du succès. Puis ça passe par différents éléments, une brigade défensive qui a de l'expérience, des joueurs d'avant qui jouent très, très bien, qui synchronisent, qui travaillent avec les défenseurs, mais surtout une ligne de centre qui est extraordinaire dans le sens où que personne n'avait vu venir. Il n'y a pas un gars, moi, dans l'organisation de Vegas qui va me faire croire, Derek, qui avait prédit des saisons pour Eric Ola puis William Karlsson de cette envergure-là. C'est impossible.
Écoute, la confiance est tellement importante, puis l'approche de Gérard Gallant, Danny, tu fais très bien de le mentionner, parce que il y a rien de pire pour un athlète, un hockey, au baseball, peu importe. Tu fais une gaffe, tu fais une erreur et tu passes 6, 8, 9, 12 minutes sur le banc à y penser, à ruminer, à passer ton tour, puis tu sens que le gérant est pas content, il est fâché après toi. Gallant, lui, regarde, il élimine ça immédiatement. Et il redonne la chance de retourner. Puis je pense que ça donne des ailes aux joueurs. Puis les joueurs ont très, très bien répondu jusqu'à date. Danny, je vais en faire une pause parce que j'aimerais te parler de l'autre série. J'aimerais te parler, évidemment, du match de ce soir entre les Capitals et le Lightning. Mais juste rapidement, avant d'aller à la pause, rapidement, c'est bon pour la Ligue nationale de hockey ce qui se passe à Vegas?
Absolument.
C'est bon, hein?
Écoute, c'est une histoire extraordinaire, là. C'est un conte de fées, puis c'est bon pour la Ligue parce que ça crée de l'expansion. La Ligue va dans des nouveaux marchés, des marchés non traditionnels, puis il y a un engouement, ça c'est merveilleux pour le hockey.
Si c'est un film de Disney, là, il se termine comment, ce film-là? On s'en va à pause, on revient dans deux minutes et demie.